Ok. Alors ce soir, on va se poser la question, qui suis-je? Alors pas moi, hein. Marie-Dominique Reynaud, bonsoir. Non, en réalité, bah, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question en vous disant, mais au fait, je suis qui moi? Alors, bah, le plus simple, c'est qu'on vous pose la question. Donc, pour vous aider... Ah, j'ai posé des crayons au fond. On va vous faire travailler. Vous commencez à avoir l'habitude. Hein, maintenant, on vous fait travailler. Donc, on va vous distribuer une feuille. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à travailler, quand même. Hein. Nous aussi, on est en week-end. Alors, première chose qu'on va vous demander, il y en a certains qui ont deviné. Il y a un petit carré. Vous savez, sur une carte d'identité, parce que qui vous êtes, ça doit être écrit sur votre carte d'identité. D'accord. Sur votre carte d'identité, il y a une photo. Alors, on n'a pas le temps de tous vous prendre en photo ce soir et de mettre votre photo. Donc, ce qu'on vous demande sur le petit carré, dans le petit carré, c'est de vous dessiner. Eh non, mais alors, que, attendez, j'ai oublié de préciser, la feuille vous appartient, vous en faites ce que vous voulez après. D'accord. On ne va pas les publier sur Facebook, du moins pas cette semaine. L'objectif de ce petit exercice... C'est de réfléchir sur soi, évidemment. Donc là, vous vous dessinez, c'est juste pour histoire de s'amuser un peu entre nous. Comment vous vous dessinez? Bon, ça vous appartient. Hein. Alors, attention, une règle. On ne juge pas et on ne se compare pas, d'accord? C'est pas le but du jeu. Hein? C'est un exercice pour chacun. On ne juge pas et on ne se compare pas les uns aux autres. Chacun est unique, je rappelle. On est donc incomparable. Alors pour les artistes, je vais être obligée d'interrompre votre œuvre d'art. Il faut qu'on avance un petit peu, parce qu'il y en a qui ont longtemps que c'est fini. Maintenant, vous allez écrire comment vous vous qualifiez. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, en deux, trois mots, qui diriez-vous que vous êtes? Comment vous vous qualifiez? En deux, trois mots. Qui vous dites que vous êtes? Alors, c'est perso. On ne peut pas copier sur le voisin, parce que le voisin et nous, ce n'est pas pareil. Après, on peut s'aider. D'accord, ouais, évidemment. Qui vous êtes? Qui diriez-vous que vous êtes? Comment vous vous qualifiez? Comme tu veux, c'est à toi, ça t'appartient. Est-ce qu'il y en a qui veulent bien dire ce qu'ils ont mis? Vas-y. Rigolote. Serviable. Très nerveuse. Donc on est dans des adjectifs, oui. Souriant. Aimable? Toujours prêt à rigoler. Ok. On est toujours dans des adjectifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis autre chose que des adjectifs? Oui. Une fille? Oui. Bah, tu peux. C'est vrai aussi. Tu veux, Natou?
Je suis Nathanael
Guy. Oui. Eliel, enfant de Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont mis d'autres types d'informations? Ah, il y en a qui sèchent. Hein. Ok. Alors, deuxième question. Comment les autres me qualifient? En gros, qu'est-ce qu'on dit de moi? Comment les autres me qualifient? Alors, on ne leur demande pas. C'est comment je pense que les autres me qualifient. Souvenez, Jésus, à un moment, il a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Ben là, c'est la question que je vous pose. Qui dit-on que vous êtes? Je le laisse entre vous et vous. On ne fait pas de mise en commun. Alors, on continue. On continue. Attention, ça devient sérieux. Comment je me vois par rapport à Dieu? Comment je me vois, moi, dans la vie par rapport à Dieu. En gros, est-ce que je me sens chrétien? Est-ce que je me sens enfant de Dieu? Est-ce que je me sens loin de Dieu? Est-ce que pour moi Dieu n'existe pas? Comment je me sens, moi? Je me vois, moi, par rapport à Dieu. Depuis le début, ça dépend du contexte. D'accord? Tu y mets ce qui te vient, toi, à la pensée quand on te pose la question. D'accord? Alors, comment je me vois par rapport à Dieu? Et évidemment, vous devinez la question suivante. Comment je pense que Dieu me voit? Vous n'étiez jamais posé la question? Ben, vous avez bien fait de venir. En fait, ce soir, ce qu'on veut voir avec vous, c'est qui on est. Alors, dans la première partie, comment je me qualifie, c'était déjà en fonction du contexte, d'accord? Beaucoup ont donné des caractéristiques de caractère, de tempérament. D'autres ont donné leur identité à l'état civil. Ça existe aussi, hein. Vous avez tous une carte nationale d'identité, d'accord? Ou un passeport qui vous dit d'où vous venez. Vous pouvez aussi vous qualifier en tant que fils ou fille de. Vous pouvez vous qualifier en tant que professionnel de quelque chose ou étudiant. Vous pouvez vous qualifier dans le domaine sportif. Voilà, on peut, quand on donne son identité, on a tout ce registre-là. Comment les autres me qualifient? Ben, les autres me qualifient en fonction de ce que je donne à voir. D'accord? Les autres me qualifient, ils ne sont pas dans ma tête, ils ne sont pas dans mon cœur, ils ne sont pas dans ma vie en général. Donc comment ils me qualifient? Ben, ils me qualifient en fonction de ce que je laisse voir. En fonction du contexte. D'accord? Par exemple, moi je suis prof et j'ai une élève qui a croisé une jeune de l'église. Et sur Facebook, j'ai vu qu'elle se connaissait, donc j'ai envoyé un petit message et il y a l'élève qui fait « Waouh, tu connais Marie-Dominique Reynaud ?» Et l'autre a réfléchi, fait « Ah ouais, Marie-Do !» D'accord? Elles me connaissent en fonction du contexte où elles me voient. Et par rapport à Dieu, ben, je pense que, vu les questions que vous avez posées, on peut vous aider à voir comment Dieu vous voit. Voir comment vous voyez par rapport à Dieu. Mais aussi, et ça c'est très important dans la vie quand on veut avancer, c'est comment Dieu nous voit. Et là, je laisse toute la place à Guillaume.
Ok. Ce que Marie-Do a pu introduire, j'ai essayé de le résumer en une phrase. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Ce que pense le monde et ce que je pense par rapport à VS versus comment Dieu me voit par la puissance de la grâce. Ce soir, je vais vous parler de la grâce. Je vais vous parler aussi de comment Dieu vous voit, vous, tel que vous êtes. Mais avant ça, on va regarder un peu comment le monde peut vous voir et comment vous, peut-être, vous percevez. Ce que pense le monde. Je pense qu'il y a à peu près trois attributs qui nous permettent de nous définir. Souvent, donc on parle de ce qui va nous permettre de dire qu'on est quelqu'un dans le monde et dans notre société où on est. C'est des caractéristiques liées à la beauté, liées à nos performances et liées à notre statut social. Je suis quelqu'un parce que je suis beau, je suis belle. Je suis quelqu'un parce que je suis un grand artiste. Je suis un entrepreneur de génie. Je suis un sportif de haut niveau. Et les médias, en fait, mettent en avant ces personnes-là, ces personnes qui ont des performances. Si aussi on a un statut social, qu'on soit dans la politique, qu'on soit un millionnaire, etc., il y a toujours un moyen de définir quelqu'un. Et c'est souvent comme ça que la société définit les personnes. C'est parce que tu es belle, parce que tu es beau, que tu représentes quelqu'un. Ouais, c'est bon, je peux y aller. Je suis quelqu'un et je peux m'épanouir dans la société. J'ai mes performances et j'ai la réussite. Alors là, je suis quelqu'un. J'ai un statut social et en plus j'ai une considération. C'est bon, je suis quelqu'un. Et ça. Dans le monde, ce que pense le monde de ça, c'est que c'est la beauté, les performances, le statut social, plus la réussite et l'admiration que ça peut apporter, ça crée chez nous un épanouissement. On se dit, bah voilà, c'est parce que j'ai ça que je suis épanoui. C'est parce que je vis comme ça que je suis épanoui. Mais moi, je veux vous poser une question. Est-ce que mon identité est déterminée par ce que je fais ou elle détermine ce que je fais? Moi, je pense c'est mon identité qui détermine ce que je fais et pas l'inverse. Et on va essayer de voir ça ensemble. En fait, juste pour voir un petit peu, pour avoir un exemple qui était dans la Bible, on peut regarder à Salomon. Je sais pas si vous voyez tout ce qu'il sait, Salomon. Salomon, c'est le roi qui a la sagesse, qui a les richesses, qui a les femmes, qui a le pouvoir, qui a l'admiration, qui a l'apparence. Et tout ça, alors qu'il écrit le livre des Ecclésiastes, c'est vanité. Tout ça, c'est vanité. Et j'aimerais qu'on s'intéresse à pourquoi lui dit ça. Pourquoi il s'est rendu compte que malgré qu'il ait tout eu, c'est alors qu'il était en haut, bah il a regardé à droite à gauche, il s'est dit ça me sert à rien, je suis pas plus épanoui que ça. Par contre, le problème c'est que tout ce que notre société véhicule, tout ce que les médias peuvent véhiculer, tout ce que la pub peut véhiculer, tout ce que les réseaux sociaux, internet peuvent véhiculer, c'est que ton statut, tes performances ou ta beauté définissent ce que tu es et définissent une personne épanouie. Et c'est parce que t'as ça que t'es épanoui. Moi, je crois que, au contraire, c'est plutôt qui on est qui va déterminer ce qu'on va faire. Et pour ça, on va revenir en fait au plan de Dieu à la création. On va repartir en fait de la base. Donc là, je vous ai un peu décrit un paysage là de ce que peut penser le monde. Et maintenant, on va essayer d'aller plus en profondeur et de venir d'abord à ce que Dieu lui pense pour pouvoir revenir sur ce que je viens de vous communiquer. Le plan de Dieu à la création. L'homme, à la base, il avait une grande valeur. Il avait même une autorité. Pourquoi ? Alors, quand on regarde à Genèse 1, 26-27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » Pas mal. « Selon notre ressemblance. » Ouais, c'est bien. « Pour qu'il domine. » Waouh, super. « Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. » Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait déjà eu l'occasion un petit peu de discuter de tout ça. Mais donc c'était pour les gars, mais on va revenir pour que tout le monde comprenne bien. Là déjà, un des attributs là qui fait que l'homme avait une grande valeur, c'est d'abord il les crée à son image, et ensuite il lui donne la domination sur toute la terre. Rien que ça. Ce que Dieu voulait là, c'était déjà nous donner une autorité et montrer que parce que Dieu nous créait et qu'il nous donnait l'autorité, il considérait qu'il y avait une grande valeur. On avait chacun une grande valeur. Et le pire même, c'est, je sais pas si vous réalisez ça, c'est que l'homme, il avait l'autorité sur le jardin d'Éden. Le diable, il avait beau être là, il avait aucun pouvoir. Il avait aucun pouvoir à la base. Mais comment il l'a eu, ça on verra après. Une autre des caractéristiques que je veux mettre en avant par rapport à l'homme, c'est que l'homme, il était aussi en sécurité. On peut voir ça à travers Genèse 1, 29 et 30. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Ce que Dieu dit en résumé là, c'est que il donne un terrain qui est fertile, avec de la nourriture en abondance, une nourriture qui est tranquille. Il venait juste de dire avant, parce que là c'est le verset 29 et 30, au verset 20, 26 et 27, il venait juste de dire qu'il allait donner la domination. Et là, en plus de donner la domination, il donne une sécurité. Tous les besoins de l'homme, ils étaient satisfaits. Il avait la nourriture, c'est important. Il avait et puis il était en confiance. Il était en confiance là où il était. Il pouvait aussi manger l'arbre de vie dans le jardin. Ça qui lui donnait qui le connectait avec Dieu, qui lui donnait la vie éternelle. Il était vraiment comblé. Ensuite, il y a un autre point encore, c'est que Dieu, il avait déjà établi ce sentiment d'appartenance. Alors, à la base, le fait que Dieu ait créé l'homme, en fait, il avait une relation déjà avec Dieu, donc il appartenait déjà à Dieu, ils s'appartenaient mutuellement, il y avait pour l'homme ce sentiment d'appartenance, il pouvait déjà être comblé. Mais qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis. En fait, déjà, il savait que l'homme avait un besoin d'appartenance. Il savait. Et il savait qu'il n'était pas pleinement satisfait juste par sa relation avec Dieu, mais il a créé la femme parce qu'il savait que le fait que l'homme soit seul, ça le conduisait à l'isolement. Et s'il était dans cette solitude-là, eh bien, l'homme, il pouvait justement se sentir mal. Je sais pas si vous remarquez ça, mais moi, quand je suis seul, au bout d'un moment, ça m'énerve un peu, j'ai envie de sortir et j'ai envie de communiquer avec du monde. Parce que je sais que c'est important. Et si j'ai pas ça, comme on est des êtres relationnels, on a vraiment besoin de communiquer avec les autres. Je sais pas si ça, vous avez déjà fait ça, le fait d'être tout seul et de vous dire, purée, j'ai personne à qui parler. Bon. Et Dieu, il avait déjà compris ce sentiment d'appartenance là qu'on avait besoin. Et il voulait le combler en créant la femme. Est-ce que, de fait, l'homme et la femme s'appartenaient mutuellement. Et ça leur permettait de vivre dans l'intimité l'un de l'autre et sans être gênés, sans être isolés. Voilà tout ce que Dieu a développé. Alors je vous ai parlé de ces trois attributs-là en fait. Et ces trois attributs-là pour moi c'était des privilèges. Ça c'était des privilèges que Dieu avait donné à l'homme simplement parce qu'il l'avait créé. Il l'avait mis dans une situation où il était il avait l'autorité, il était en sécurité et en plus son sentiment d'appartenance, le fait d'appartenir à quelqu'un, tout ça c'était comblé. Malheureusement, la femme prit le fruit et le donna à l'homme et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance et ça c'était le premier péché. Le premier péché en fait, c'était la volonté, c'était une volonté d'indépendance. À chaque fois l'homme il était en communion avec Dieu, il communiquait avec Dieu. Mais en fait, le péché, ce que c'est vouloir prendre son indépendance de Dieu. Dire, ok, bah Dieu, t'as beau m'avoir dit qu'il fallait pas que je mange ça, j'ai pas besoin de toi pour vivre, j'ai envie de vivre indépendant de toi, donc je me permets de manger ça, et puis on verra bien ce qui se passera. Il y a eu plusieurs conséquences à la chute. Première conséquence, c'est que il y a une perte de la connaissance de Dieu. Alors, moi ça me fait rire quand je lis ça, parce que c'est Genèse 3:7, l'homme et la femme se cachèrent de Dieu parce qu'ils étaient nus. Franchement, est-ce qu'on peut se cacher de Dieu ? Vraiment. Non, moi quand je lisais ça, à chaque fois je me suis dit, mais n'importe quoi, mais ils ont rien compris quoi. Ouais, effectivement, ils ont rien compris. Ils ont perdu la connaissance de Dieu, ils s'étaient dit, ouais Dieu il va pas me voir. Sauf que, bah non, en fait, ils connaissaient plus Dieu, et Dieu, effectivement, il peut quand même les capter, quoi. donc, que tu sois nu ou pas nu, de toute façon, Dieu, il te voit, et t'as beau te cacher derrière un arbre, de toute façon, je te vois quand même. Dieu, il se dit, mais, oh les boulets, quoi. Non, il a pas dit, oh les boulets, il était vraiment attristé. Il était vraiment, vraiment attristé. Et, une autre des conséquences, c'est les émotions négatives dominantes. Alors, la première émotion, est-ce qu'il y en a qui savent quelle est la première émotion que l'homme a eue dans le jardin? Enfin, la première émotion que l'homme a eue tout court. C'était quoi? Est-ce que vous savez? Là? Non. La peur. Ça, c'est la première, la toute première émotion. L'homme eut peur. L'homme et la femme eut peur. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Bon, j'ai pas pris les versets, hein, mais... Donc l'homme, la première émotion qu'il a eue, c'est cette crainte, cette anxiété. Après, qu'est-ce qu'il a développé ? Il a développé ce que vous avez dit, la honte, la culpabilité. Quand, par exemple, et puis un dernier point aussi, c'était la colère. Pour donner un exemple, parfois, moi j'ai ressenti ça, je sais pas pour vous, j'ai eu déjà des sentiments de honte, même et de colère. Et... quand je fais quelque chose de mal, parfois je critique les gens et j'en suis pas fier. Parfois je me mets en colère pour certaines choses et j'en suis pas fier. Parfois ça me pousse à dire des choses méchantes et j'en suis pas fier. Et dans ces cas-là, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de ne pas m'approcher de Dieu. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est Dieu, tu restes où tu es. Moi je reste où je suis et c'est bien comme ça. Pourquoi ? D'une part parce que je suis orgueilleux, deux possibilités, soit parce que je suis orgueilleux et que je me dis non, c'est bon, il méritait que je lui dise ça, il méritait la situation, elle méritait que je me mette en colère, je vais pas me renier alors que là il y avait tout pour se mettre en rogne, il y avait tout pour être énervé. Non. Soit, l'autre possibilité, c'est soit j'avais trop honte. Ce sentiment d'orgueil ou ce sentiment de honte. Et tout ça, ça fait que j'ai pas envie de m'approcher de Dieu. Un autre exemple concernant la colère. Il y avait la première fois en fait que quelqu'un a eu ce sentiment de colère, c'était Caïn. En fait, Caïn, il était en colère quand son offrande, elle a pas plu à Dieu. Il y avait les deux fils d'Adam et Ève, c'était Caïn et Abel. Caïn, lui, s'occupait de la terre. Il faisait, il avait des champs, il cultivait des arbres, etc. Et puis Abel, lui, il s'occupait de bétail. Et alors que Caïn et Abel apportaient leurs offrandes de leur travail, donc des arbres et des fruits et de la nourriture de la terre. Pour Caïn et puis du bétail pour Abel. Dieu, il a apprécié en fait le cadeau en fait, l'offrande d'Abel, mais pas de Caïn. Et Caïn, il s'est mis en boule, il était pas content. Et il s'est mis en colère, il est parti bouder. Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit alors ? Il dit si tu agis bien, tu relèveras la tête. C'est pas si tu as un bon sentiment tu agiras bien, non, c'est si tu agis bien, tu relèveras la tête, tu auras un bon sentiment derrière. Ce que Dieu voulait communiquer à l'homme, déjà, alors qu'il avait péché et que quand même Dieu voulait prendre soin d'eux, il voulait transmettre ça à l'homme, c'était que les mauvais sentiments entraînent les mauvais comportements, mais que les bons comportements entraînent les bons sentiments. Si tu te comportes bien et que, bon, parfois c'est dur, mais ce bon comportement-là, ça traîne le bon sentiment. Et parfois, on n'a pas envie de faire les choses. Mais pourtant, ce bon comportement-là, il pourra entraîner le bon sentiment. Quand tu t'apprêtes, t'es énervé parce que t'es face à une situation qui t'énerve, t'es presque prêt à exploser. Non, le bon comportement serait de pas t'énerver. Et le fait de pas le faire... Alors parfois on peut, alors il y a deux possibilités. Parfois on masque ça en nous et ça grandit en nous. Mais si on a le bon comportement de remettre ça à Dieu, ça c'est le bon comportement, de remettre ça devant Dieu et de dire ok Seigneur, ce que je viens de vivre là, ça m'énerve, mais je veux te remettre ça à toi parce que je sais que en me remettant à toi, ça c'est toujours le bon comportement. Et ça entraîne le bon sentiment. Dernière conséquence de la chute. Il y a trop de choix. Avant, il n'y avait qu'un seul choix que l'homme n'aurait pas dû faire, c'était de manger l'arbre. Tous les autres choix qu'il pouvait faire, il pouvait le faire tranquillement, il n'y avait pas de problème. Il pouvait aller s'occuper de son jardin, il pouvait vraiment faire tout ce qu'il voulait. Mais la seule chose que Dieu lui a dit, ne mange pas de cet arbre, du fruit de cet arbre. Aujourd'hui, on est face à de multiples choix, à chaque fois. C'est toujours un choix. On a toujours un choix. On a le choix de prier ou non. On a le choix de lire la Bible ou non. On a le choix d'aller à l'église ou non. On a le choix d'aimer les autres ou non. On a le choix de regarder des choses qu'il faut pas. On a le choix de dire des choses qu'il faut pas. Tout ça, c'est un choix. À chaque fois, c'est un choix. Et on avait un seul mauvais choix. Où il y avait juste une possibilité pour qu'on fasse un mauvais choix dans le jardin. Et là, on en a plein. Bon, si je m'arrête là dans mon message, vous repartez démoralisé. Donc, vous inquiétez pas, je continue. Ça, c'est les conséquences de la chute. Quand je vous disais que on avait ces trois privilèges-là, à savoir d'être en sécurité, d'avoir ce sentiment d'appartenance et d'avoir cette autorité-là, ça, c'est trois privilèges que Dieu nous avait donnés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Des besoins. Ils sont devenus des besoins. Premier besoin que je veux voir avec vous, c'est le besoin d'appartenance. L'appartenance, elle a été remplacée en fait par le rejet. À chaque fois, on essaye d'appartenir à quelqu'un. On fait tout pour avoir des amis, parce que c'est important. Moi, le premier, hein, j'ai besoin d'avoir des amis. Hein. J'ai besoin quand on vient à l'église, c'est clair, hein, on a besoin de personnes avec qui on peut échanger. C'est important. C'est important. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on recherche à combler à travers la recherche des amis, le fait de faire des amitiés, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Pourquoi tu cherches à avoir des amis ? Est-ce que c'est juste pour pas te sentir seul ? Est-ce que c'est juste pour être reconnu ? Et qu'est-ce que tu fais pour avoir ces amis ? Ça, c'est une question encore plus profonde. Est-ce que tu te mets dans le moule ? Est-ce que tu prends un style vestimentaire qui te permet de te dire oh « ouais, ok, c'est bon, moi je suis... moi, je suis plutôt rasta. Non, moi, je suis plutôt rappeur. Non, moi, je suis normal. Moi, je suis la belle gosse. Tout ça. Tout ça, on peut faire tous ces petits choix-là. Hein. Vous savez, ça, vous le savez. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu cherches à ressembler à quelqu'un pour appartenir ? Est-ce que tu cherches ce besoin d'appartenance ? Est-ce que tu combles ce besoin d'appartenance-là en ayant des performances. Moi, je vous avoue que pendant un temps, et je crois que c'était pas forcément bon, alors que je commençais à apprendre la guitare, que j'apprenais des instruments, j'étais content qu'on me reconnaisse pour ça. Je me suis dit, ouais, c'est cool. Je suis un musicien, je me débrouille pas mal, c'est cool. On me reconnaît. Oh là là. Qu'est-ce que j'avais fait là ? Merci Seigneur parce qu'il m'a permis de voir ça. Merci Seigneur parce qu'il m'a permis que je joue de la musique alors que je m'entraîne sur mon instrument. C'est pas du tout pour avoir des amis, c'est pas du tout pour être reconnu, c'est pas du tout pour me sentir bien. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour appartenir à quelqu'un ? Pose-toi cette question-là. Deuxième besoin d'une bonne estime de soi. L'innocence a été remplacée par la honte. Cette bonne estime de soi, moi je pense qu'elle est avant tout définie par le fait qu'on est fils de Dieu. Mais est-ce qu'il faut qu'on soit approuvé des autres pour avoir une bonne estime de soi ? C'est vraiment en lien avec le besoin d'appartenance, mais là c'est plus introspectif dans le sens où cette estime de soi, comment tu la qualifies ? Est-ce que tu t'en as rien à faire des autres et du coup tu vis reclus, tu vis en ermite et puis je m'en fous des autres ? Ou alors j'évite toute confrontation avec les autres. J'ai peur d'aller avec les autres. Du coup, je me mets un mur. Je mets un mur avec les autres. Finalement, j'arrive pas à me confier aux autres. J'arrive pas à juste aller voir les autres. Parce que j'ai pas forcément une estime de moi. Bah, je me dis non. Si je vais voir les autres, ils vont me juger. Et puis pour qui on va me prendre quoi? Pour qui on va me prendre, on va mal me juger, et c'est comme ça que je vais définir mon estime. Je vais dire, bah ouais, les autres m'ont dit que j'étais comme ça, donc je suis comme ça. Et cette innocence-là que l'homme avait dans le jardin d'Éden, le fait qu'il n'ait pas eu besoin, voilà, il pouvait se balader tranquille, nu, pas de problème. Cette innocence-là, il a commencé à avoir honte. Il a eu peur et puis il a commencé à avoir honte. Et cette innocence du regard des autres, c'est devenu une honte. Oh mince, les autres me regardent. C'est les autres qui définissent qui je suis. Comment est-ce que tu te définis et est-ce que ton estime personnelle, tu la définis par les autres? Par quoi tu la définis? Pose-toi cette question. Dernier besoin, besoin d'autorité. Besoin d'autorité, moi ce que je veux bien que vous compreniez par là, c'est pas genre l'autorité, je suis dirigeant ou quoi. Non, non, ça va même plus en profondeur que ça, dans le sens où c'est ouais, j'ai assez de force pour m'en sortir tout seul. J'ai besoin d'avoir assez de force pour m'en sortir tout seul. J'ai besoin de maîtriser les choses autour de moi. Ah non, là j'avais prévu ça à cette heure-là. C'est pas non, c'est pas après, c'est pas avant, c'est cette heure-là. Demain c'est culte, 10h, ok c'est bon, là je maîtrise, donc faut que je me lève à 8h30, 9h, ok j'ai la route, j'ai 20 minutes de route, ok c'est bon, là on peut faire comme ça, demain j'ai quoi à faire, ah ouais j'ai mes devoirs, oh, rien à foutre, non, vous êtes pas tous comme ça, et moi non plus, mais voilà. T'essayes de maîtriser les choses. Là, la semaine prochaine, je vais avoir mes cours. J'essaie de m'organiser comme ça. Et on aime maîtriser les choses. Moi, j'aime maîtriser les choses. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien maîtriser les choses. J'aime bien. Ok, on a dit qu'on fait ça à ce moment-là. Bah, ok, on le fait et ça va bien se passer. Ce matin, on avait répète à 10h, donc répète à 10h, c'est bon. En plus, il y avait de quoi manger. Après, on a été chercher à manger. C'est bon, tout va bien. Voilà, j'ai besoin de maîtriser les choses. Et tout ça, toute cette force que Dieu avait donnée en disant « je te donne l'autorité sur, je te donne la domination sur », l'homme, il n'avait plus à se poser de questions. « Bah ouais, c'est les animaux, c'est bon, c'est à moi, quoi. Ouais, c'est un lion. Bah et alors ?» Maintenant, le lion, on le voit, on a peur qu'il vienne nous bouffer. Et en fait, bah oui, effectivement, maintenant, c'est que cette force et cette maîtrise de soi, cette autorité qu'on avait, ça a été remplacé par une faiblesse et une impuissance. Alors peut-être t'aimes bien maîtriser les choses, mais quand vient le moment où tu te dis « Oh purée, j'ai une sale note. Oh purée, dans mon travail, ça s'est pas passé comme je voulais. Oh purée, là, c'était pas comme je voulais. Je maîtrise pas les choses, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets en colère. Je dis des choses qui dépassent ma pensée. Ou je dis des choses sur le ton de l'énervement. Et puis boum, bah voilà, je pêche. Je suis méchant avec les autres. Et puis bah maintenant j'ai honte. » Et parce que j'ai honte, je n'ose plus m'approcher de Dieu. Ouais. Ouais. On aime maîtriser les choses. Et ça, c'est un besoin. Tout ce que je viens de vous citer là, c'était des besoins. Aujourd'hui, c'est des besoins. Sauf qu'avant, c'était des privilèges. On avait besoin d'appartenir à quelqu'un. On avait besoin d'une bonne estime de soi. On en a toujours besoin. Et c'est important. Mais Dieu le sait. Dieu sait que vous avez besoin d'amis. Dieu sait que vous avez besoin d'une bonne estime de vous. Dieu sait que vous avez besoin de maîtriser les choses. C'est pas genre parce que vous donnez votre vie à Dieu que vous maîtrisez plus rien. Vous avez une bonne estime de vous, bah vous en foutez. Et puis les amis, vous en avez pas besoin. Ou vous avez pas besoin d'un mari ou d'une épouse pour plus tard. Non, ça, Dieu il le comprend bien. Il comprend bien que ça c'est un besoin. Pourquoi? Parce que avant c'était un privilège. Simplement parce qu'avant, c'était un privilège. Bon, maintenant qu'on a dépeint toutes les conséquences du péché et toutes les conséquences de la chute, j'aimerais quand même vous annoncer une bonne nouvelle. La puissance de la grâce. Faire part de la puissance de la grâce. Et vous parlez aussi des conséquences qu'il y a à la grâce. Je ne sais pas où vous en êtes tous avec Dieu. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Dieu. Mais là, tout ce que je viens de te dire, là, ces besoins-là, c'est un peu compliqué. Tu te dis, mince, je me sens pas épanoui. Je me sens pas heureux. J'ai pas l'impression de... Je suis toujours un peu dans la honte comme ça. Et de toute façon, j'arrive pas à m'approcher de Dieu. Quoi. Peut-être que tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu n'as pas donné encore ta vie à Dieu. Tout à l'heure, je vais en parler. Peut-être tout va bien. Bon, alors là, c'est cool. Bon, alors là, franchement, si ça va bien, ça va bien, tant mieux. Mais peut-être que si ça va vraiment bien, pose-toi la question si tu es sûr que ça va bien. Et peut-être de laisser Dieu agir et dire « Ok, est-ce que je vais vraiment bien ? Est-ce que je suis sûr de bien aller ? Seigneur, montre-moi ce qu'il y a à l'intérieur de moi. » Alors, les conséquences de la grâce. Première conséquence, la vie éternelle. Ça, je ne vais pas vous refaire tout le topo. Quand Christ il est mort à la croix, si on place notre vie en lui, si on dit « Ok, Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur, je te reconnais parce que toi, tu es mort à la croix, que tu es ressuscité, et qu'alors que tu as fait ça, tu as pris tous mes péchés, et donc parce que tu as pris tous mes péchés, tu me sauves et tu me rends saint. C'est pour ça que je peux avoir la vie éternelle et que je peux me retrouver dans la présence de Dieu et rester dans la présence de Dieu, alors que je suis mort, alors que je suis en train de mourir et que je rencontre Dieu. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose qui va être essentielle, la deuxième et la troisième chose qui vont être essentielles et que je vais vous présenter, c'est que non seulement Dieu il vous donne une nouvelle identité, mais il vous donne aussi, il rétablit les privilèges. Vous avez toujours ces besoins-là, mais Dieu veut vous le donner simplement, en lui faisant confiance. En fait, la grâce, c'est un package. C'est pas simplement, je suis sauvé, c'est bon, je vais au ciel, et puis, oh Seigneur, vite, viens. Là, c'est un peu la galère, vite, Seigneur, reviens vite. Puis on se barricade chez nous, soit on reste dans l'église tranquillement chez nous. On essaye de pas pécher, et puis si on pêche pas, ça va. Si on pêche, on est dans la honte, et puis on se sent tellement mal, on n'arrive pas à s'approcher de Dieu. Soit on vit comme ça, soit on considère qu'on a le package. Mais ça, c'est un choix. Alors, pour bien comprendre, en fait, le package, il y a une série de versets que Marido va commencer à vous distribuer. On va les lire ensemble. On va les lire ensemble pour que vous puissiez considérer ce que ça veut dire avoir une nouvelle identité en Christ. Parce que Dieu donne une nouvelle identité et tu vas plus définir ton identité d'après ce que toi tu crois, d'après ce que le monde pense, d'après ce besoin d'appartenance. Non, tu vas le définir parce que Dieu te donne une nouvelle identité. Et donc on va lire ensemble ce que Dieu pense de toi et ce que Dieu croit que tu es alors que tu acceptes ce cadeau.
Vous allez chacun à votre tour lire un verset, donc au fur et à mesure.
Je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant.
Je suis une créature merveilleuse.
Amen.
Je suis le sel de la terre.
Écoutez bien.
Je suis la lumière du monde.
Je suis une enfant de Dieu.
Je suis en Christ et Christ est en moi.
Je fais partie du vrai cep. Je suis un canal de la vie du Christ.
Je suis l'ami de Christ.
Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit.
Je suis esclave de la justice.
Je suis esclave de Dieu.
Je suis un fils de Dieu. Dieu est spirituel, mon Père.
Je suis co-héritière avec Christ. Amen. Je partage son héritage avec lui.
Amen.
Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi.
Je suis unie au Seigneur et je suis avec lui un seul esprit.
Je suis un membre du corps de Christ.
Je suis une nouvelle création.
Je suis réconciliée avec Dieu et j'ai un ministère de réconciliation.
Je suis un fils de Dieu, je suis un en Christ, descendant d'Abraham, héritier de la promesse.
Je suis sauvé par grâce.
Je suis une héritière de Dieu parce que je suis une fille de Dieu.
Je suis une sainte.
Je suis l'ouvrage, l'œuvre de Dieu, née de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre.
Je suis concitoyenne des saints, membre de la famille de Dieu.
Je suis un prisonnier de Christ.
Je suis juste et sainte.
Je suis une citoyenne des cieux assise dans les lieux célestes dès maintenant.
Je suis cachée avec Christ en Dieu.
Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie.
Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé.
Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres.
Je suis un saint et participant à une vocation céleste.
On reprend au début.
Je suis un participant du Christ, je partage sa vie.
Je suis une des pierres vivantes de Dieu, édifiée en Christ pour être une maison spirituelle.
Je suis membre de la race élue, un sacerdoce humain. Un sacerdoce royal de la nation sainte, du peuple qui appartient exclusivement à Dieu.
Je suis un étranger et un voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement.
Je suis une ennemie du diable.
Je suis un enfant de Dieu et je ressemblerai à Christ quand il reviendra.
Je suis née de Dieu et le malin, le diable, ne peut pas me toucher.
Ok. Waouh. Je pense que là, ça, ces versets-là, c'est important que vous puissiez les réaliser dans vos vies. Parce que ce que veut dire Dieu là, en fait, c'est que lorsqu'il vous donne la grâce et que vous acceptez sa grâce, lorsque vous faites ce choix d'appartenir à Dieu, tous les versets là que vous venez de lire, ils sont vrais. Et à chaque fois où vous penserez le contraire, ça viendra pas de Dieu, ça. Hein. Ça viendra simplement de votre pensée humaine ou du diable. Et ça c'est vraiment important. Je vous proposerais vraiment d'emporter ça chez vous et de le lire. C'est pas parce que c'est moi qui viens d'apporter ce message-là ou Marido. C'est simplement parce que le Saint-Esprit peut agir en vous. Et je crois qu'il peut faire une œuvre merveilleuse si vous considérez tous ces versets-là comme vrais.
Juste, j'interviens juste pour rappeler, quand on a fait le questionnaire tout à l'heure, vous aviez la question: qu'est-ce que Dieu pense de qui je suis? Vous avez la liste entre les mains de comment Dieu vous voit et comment c'est tout ça. C'est des versets qui sont dans la parole de Dieu. Vous avez là une photographie, si on peut dire, une interview de Dieu sur qui vous êtes, à condition évidemment, comme disait Guillaume, hein, d'avoir fait le choix de lui appartenir. Il vous oblige pas. On a le choix. Tout à l'heure, quand tu parlais, ça me faisait penser au verset. Choisis la vie ou choisis la mort. En perdant le jardin d'Éden, on a gagné le choix de choisir entre la vie et la mort. Et Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Ça, c'est son cœur. Son cœur, c'est de vous voir comme c'est écrit sur ce papier.
Pour peut-être vous permettre de comprendre davantage, il y a vraiment une illustration, moi, qui m'a parlé pour comprendre votre identité. Moi, je suis français, donc j'ai la nationalité française. Et un exemple, c'est très très fictif, mais admettons par exemple, je vais dans un pays où il y a des terroristes qui viennent m'emporter, qui me prennent en otage. Qu'est-ce que va faire la France? Forcément, elle va essayer de me rechercher, de me retrouver et de m'aider. C'est pas parce que je m'appelle Guillaume Chauvin. C'est pas parce que si c'était pour Marido, c'est pas parce que c'était Marido, c'est pas parce que c'était Rose, c'est pas parce que c'était Natou, parce qu'il s'appelle Natou, non. C'est simplement parce que on est français. Dieu, il veut vous donner ça. C'est un privilège de cette citoyenneté. Ça, c'est, vous êtes citoyen, vous êtes cohéritier, vous êtes des saints. Ça marche aussi pour les gens étrangers, pardon. Mais c'était l'illustration, hein. Moi je l'ai pris pour moi. Mais vraiment, cette illustration-là, ça vous permet peut-être de comprendre que cette identité-là, c'est à partir du moment où vous dites « Ok, je te donne ma vie, Seigneur », eh ben c'est tout ça, tous ces droits, j'en bénéficie simplement parce que je suis devenu citoyen du royaume de Dieu. De même que je suis citoyen du royaume de la France, Donc je bénéficie de des droits qui sont immuables à la France parce que je suis français. Et ben de la même manière, tout ce qui est marqué dans la Bible et que qu'on a pu vous transmettre là, ça c'est vos droits et vous devez vous en saisir. Mais c'est votre choix. Vraiment là, on a mis ça en gros là, à toi de choisir. Soir, je voudrais vraiment vous mettre face à ce choix là. Vous n'êtes pas obligé. Et cette identité là, vous n'êtes pas obligé de la saisir. La seule chose qu'on fait, nous, c'est la proposer. Mais justement, comme disait Marido, choisis entre la vie et la mort. Moi, je crois que c'est plutôt cool de choisir la vie, donc je veux prendre la vie. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait ce pas de donner leur vie à Dieu et de dire, OK, ouais, la vie éternelle, c'est beau, mais pour l'instant, j'y vois pas tout de suite le plus, le bonus. Mais en fait, il n'y a pas que la vie éternelle. Il y a aussi une nouvelle identité. Il y a un rétablissement de ces privilèges-là. Là. Tu vis plus pareil. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu n'as plus besoin absolument d'appartenir à quelqu'un. Et non, ça devient un privilège. Dieu te donne des amis. Ok, c'est cool, j'ai des amis. Mais avant tout, ce qui me comble, c'est ma relation avec Dieu. Dieu, il y a aussi un verset juste que je veux vous partager, c'est Dieu, il vous dit, vous êtes des saints. Alors moi, j'ai mis super longtemps avant de capter ça. Souvent, on dit, ouais, vous êtes des pécheurs, parce que vous commettez des péchés. Ouais, celui qui commet un péché, c'est un pécheur. C'est comme celui qui cueille des arbres, c'est un cueilleur, ou enfin, qui cueille des fruits dans un arbre, c'est un cueilleur, et puis voilà quoi. C'est logique. Bah non, c'est pas la logique de Dieu. Quand tu crois ce qui est marqué là, et ce verset-là, je suis saint, c'est-à-dire que je suis un saint qui pêche. Je suis un saint qui pêche. Mais c'est ça toute la subtilité. C'est tellement. Moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre ça, parce qu'à chaque fois, j'étais en train de culpabiliser, je m'en voulais à mort et je pouvais jamais me rapprocher de Dieu parce que j'étais tellement mal au fond de moi. Bah oui, de toute façon, je suis un pécheur et puis je peux pas m'en sortir. Bah non, tu peux pas t'en sortir, t'es un pécheur. De toute façon, t'es là. T'es obligé de retomber, donc tu vas tomber, donc tu vas vivre toujours avec cette vie-là où tu te dis bon, quand est-ce qu'il va arriver le prochain péché, purée, j'ai pas envie d'y retourner, mais aïe, je vais y aller quand même. Bon Seigneur, tu me relèves, j'ai péché, pardon, et puis là on s'effondre devant Dieu et puis là on se sent mal. Non, ça c'est un privilège. Dieu te donne ce privilège-là de te dire ok, je suis saint. Alors par contre, ça ne veut pas dire que tu peux pécher tranquille, hein, parce que c'est ta responsabilité derrière. Mais si tu considères ça, tu considères cette identité-là, t'as la vie, t'es saint, ça change totalement les choses. C'est pour ça que je vais vous proposer deux choses. D'une part, ceux qui veulent peut-être donner leur vie à Dieu, on va prendre ce temps simplement dans la prière. On va faire simple, ceux qui veulent... On va rester tranquillement, mais ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, vraiment faites ce choix ce soir, profitez-en. C'est une opportunité que Dieu vous donne, il vous tend la main. C'est pas parce que c'est ce soir que non, vous pourrez le faire chez vous, mais si vous voulez faire ce choix-là, maintenant, vraiment je vais vous en donner l'opportunité. Et la deuxième chose que je vais vous proposer, c'est ceux qui veulent vivre leur nouvelle identité, qui se considèrent comme des pécheurs alors que Dieu les considère comme des saints. Ceux qui ne considèrent pas leur identité et qui se sentent tellement mal au fond d'eux qu'à chaque fois ils vivent selon une vie où ils se sentent à chaque fois accablés. Ils ont besoin de maîtriser absolument les choses, ils ont besoin d'appartenir à quelqu'un, ils définissent leur estime de soi... selon les dires des autres, selon les critères de ce monde-là. Si vous voulez changer de perspective et vous voulez faire ce choix, vraiment, je vous invite simplement à lever la main, ceux qui veulent le faire, changer de perspective. Moi, cette identité-là, moi, je lève la main aussi parce que je sais que je la comprends pas. Et comment je la comprends davantage, c'est par la lecture de la parole. C'est à chaque fois que je peux lire la parole, à chaque fois que je vais lire ces versets-là, à chaque fois que je vais lire ce que Dieu fait pour moi, ou ce que Dieu a fait pour moi, eh ben, je réalise un peu plus qu'est-ce que Dieu me donne. Et c'est pour ça que là, vraiment, personne se regarde, s'il vous plaît. Vraiment qu'on puisse vraiment fermer les yeux chacun. Et symboliquement, c'est devant Dieu que vous faites ça. Symboliquement, de simplement lever votre main à Dieu et de lui dire, OK, Seigneur, je choisis. Une fois que vous avez fait ça, de faire ce choix-là, si vous voulez, vous pouvez prier. Prenez aussi peut-être le temps de lire ces versets. Mais vraiment, prenez ce temps de face à face avec Dieu. C'est pas de vous distraire en regardant à droite à gauche, simplement vous mettez face à Dieu. C'est entre Dieu et vous. Et vraiment, moi je fais rien. Moi. C'est simplement le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit à travers vous. Et c'est ça vraiment que je veux que vous puissiez saisir là, ce soir. Si vous voulez vraiment, symboliquement, peut-être lever votre main si vous avez à cœur de faire ça. De grandir avec Dieu.